Une journée, un habitant de Pulzheim, une tranche de vie. Le photographe français Guillaume Chauvin, actuellement en résidence artistique dans le cadre de Pulzheim, ville européenne de la culture 2015, a choisi de suivre ainsi le temps de son séjour, une trentaine d'habitants de cette ville de Bohême de l'Ouest, toute origine, tout métier confondu. Une façon de découvrir autrement, par ceux qui la font vivre et qui l'habitent, cette cité autrement connue essentiellement pour sa bière. À 28 ans, Guillaume Chauvin a déjà un beau bagage derrière lui et une vraie réflexion sur l'image. Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Strasbourg, il s'était fait remarquer il y a quelques années avec un autre camarade, Rémi Hubert, pour un reportage sur la précarité étudiante primée au Grand Prix Paris Match du photo-reportage étudiant et dont ils avaient révélé par la suite que cette réalité avait été illustrée par des mises en scène montées de toutes pièces. Un petit coup de tonnerre dans le microcosme du photojournalisme et du journalisme tout court, alors même que l'objectif de cette supercherie était avant tout de questionner le rapport de l'image au réel. Depuis, Guillaume Chauvin a multiplié les projets photographiques et littéraires, avec notamment une plongée d'un an en Russie dont il a tiré un livre, La vie russe, en français dans le texte, ou encore un récent séjour dans le Donbass. Anna Kubishta est allée à sa rencontre à Pulzheim en voiture, où il a posé ses bagages pour 2 mois.
Culture sans frontières.
Guillaume Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un photographe français en résidence ici à Pulzheim dans le cadre de Pulzheim Ville Européenne de la Culture 2015. Et où est-ce qu'on se trouve ici pour donner un petit peu... le contexte.
Alors, nous nous trouvons pas loin du lieu où je travaille, qui est le dépôt, parce que je fais partie du programme Open Air, qui invite des artistes en résidence. Et là, nous sommes actuellement dans un bâtiment qui s'appelle Papierna, si je me trompe pas, qui est une ancienne usine de papier, et qui a été reconvertie en un lieu de culture dans le cadre de Pulzheim 2015. Et ça ressemble à Berlin, sauf qu'il n'y a pas de français, c'est l'avantage. Sauf nous.
Alors dans le cadre de cette résidence, vous avez choisi de suivre dans leur quotidien des habitants de Pulzheim, de divers milieux, de diverses professions. Comment un peu vous est venue déjà cette idée? Et puis quelles sont les personnes pour l'instant que vous avez suivies? Parce qu'on est à peu près à la moitié de votre séjour, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Alors comment est venue l'idée? C'est à l'époque où la personne qui est l'intermédiaire entre le programme Open Air et moi-même m'a proposé cette résidence. M'a proposé de formuler un projet et j'ai dit que je ne pouvais pas en formuler parce que je ne connaissais rien à la culture tchèque. Et c'est pour ça que j'ai proposé de rencontrer des gens pour mieux connaître la culture tchèque, au quotidien et en faire du coup le corps de mon travail. Donc ma découverte serait le résultat final. Et c'est pour ça qu'on a fait un appel à volontaires pour m'accueillir pendant une journée avec une liste de métiers assez différents. Il y a eu des réponses assez rapidement. Et jusqu'à présent, donc là, j'ai rencontré une petite dizaine de personnes, à savoir un acteur, un journaliste, un conducteur de trolleybus, une professeure de danse, une clown de cirque, une clown dans un hôpital, pardon, un cuisinier, un fermier. Et les prochains à venir, il y aura un brasseur que je verrai demain de Pilsner Urquell.
Ça s'impose quand même à Pulzheim.
Ça s'impose, ça n'a pas été simple, mais enfin ça a été résolu. J'aurai aussi une personne vietnamienne, parce que c'est une minorité assez visible dans le coin. Et on attend toujours des réponses de la part de Tziganes, la communauté des Tziganes. Un policier aussi, ce serait intéressant. Il y a un curé que je vais rencontrer bientôt. Et etc. On a essayé d'être varié, si possible, bien que ce soit pas exhaustif, si possible représentatif du Pilsen de 2015. Quoi.
Quelles étaient les motivations des personnes justement pour être volontaires finalement? C'est peut-être montrer une image de leur ville ou quelles étaient un peu leurs raisons?
À tout le monde, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de m'accueillir, parce que pour moi c'est très étrange. Si on me proposait un tel projet, moi je sais pas si je dirais oui ou non. Même pour moi, c'est étrange de prendre des photos de gens au quotidien, chez eux, avec leurs enfants, parfois au réveil. J'ai jamais fait ça avant. Ma motivation personnelle, c'était ça. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Du coup, ça m'intéressait. Chez certaines, c'était aussi ça, la motivation. Rencontrer un Français, parce qu'ils me disent qu'ils n'en voient pas beaucoup.
C'est une espèce rare.
C'est une espèce rare, en voie de disparition peut-être. Ils voient. Et bon, après, c'est aussi des gens, je pense, qui ceux qui ont répondu à l'appel sont plutôt ouverts au projet artistique. Donc, ils voulaient voir aussi un projet artistique en réalisation, en direct. Certains, je pense, étaient contents d'en faire partie, puis de montrer aussi un aspect positif de leur culture. Comme ça, la place n'est pas prise par un autre qui pourrait être plus qu'asocial ou négatif. Enfin, bon, bref. Et après, bon, il y a la curiosité aussi. Et puis, je sais que pour certains, par exemple, une manager qui était enceinte, elle m'a dit que c'était aussi pour avoir un souvenir de cette période-là, de sa vie. Donc, chacun a des motivations différentes. Puis, je pense que tous ceux qui ont accepté le projet avaient un grand cœur. Donc, ça a joué aussi. Quoi.
Comment se déroule une journée typique ? Par exemple, aujourd'hui, vous avez rencontré un cuistot qui fait de la cuisine végétarienne à Pelzeign. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire cette journée ? Comment est-ce qu'elle a commencé ? Comment elle s'est achevée ?
Alors, elle a commencé à 7h30 chez cette personne. Donc, je l'ai retrouvée. Elle était déjà dehors avec son chien, parce qu'il fallait sortir le chien. J'ai remarqué que 85% des participants à ce projet ont un chien, ce qui m'a beaucoup surpris. Pas de chat, j'ai encore pas vu de chat. Sinon, ils ont des enfants, ou les deux. Et donc, ça commence assez tôt. La journée qui a commencé le plus tôt, c'était avec une ingénieure de chez Škoda, où c'était rendez-vous à 5h30. Ce matin, c'était sorti avec le chien. Ensuite, on est rentré à la maison pour le petit déjeuner avec la famille, avec son fils et sa femme. Ensuite, comme c'est un cuisinier, il partait dans son restaurant qui n'était pas loin, où là, c'était épluchure et puis tout ce qui fait partie de la préparation des repas. Il y avait le service jusqu'à environ 15h. Et ensuite, il faisait un break. Il fallait qu'il prépare les commandes de la semaine prochaine, trouver les menus de chaque jour. Un petit repos, et puis là en ce moment il est en train de jouer au ping-pong avec des amis pour décompresser, et il m'a dit peut-être qu'il aura un concert après. Alors habituellement moi je reste avec les gens jusqu'à assez tard. La première personne que j'avais suivie, ça s'est fini à 4h du matin parce qu'il m'a emmené à un concert. Comme il avait son propre groupe, on est parti à la campagne, on est rentré très tôt le matin. Et en général les journées, on va dire que la moyenne c'est de 8h à 8h, enfin, au moment où les gens vont se coucher, on se dit au revoir. De toute façon, je pense avoir l'instinct pour sentir le moment où il faut partir. Et puis, des fois, c'est tôt, des fois, c'est moins tôt. Ça se passe toujours très bien. Et certains sont devenus des amis depuis. Quoi. Pour l'instant, je n'en retiens que du positif.
Oui, c'est ce que je disais. Ma question suivante, en fait, c'était quelles étaient un peu, finalement, les impressions au quotidien. C'est quand même un travail assez difficile, j'imagine, parce qu'on rencontre des personnalités différentes tous les jours, différentes psychologies aussi. On s'imprègne de vie diverse. Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience ?
Alors, est-ce que c'est dur ? Non, ce n'est pas dur, mais c'est exigeant, parce que, bon, déjà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et à la base, je suis plutôt quelqu'un de timide. Donc, rentrer dans la vie privée de gens pendant une journée, faut pas jouer un rôle, mais il faut rentrer dans un fonctionnement particulier. Parce qu'il faut être très... Il faut s'adapter à la personnalité. Donc, des fois, il faut être plutôt en retrait. Des fois, au contraire, il faut être très démonstratif. Quand les gens s'absentent et qu'ils ont des enfants, on s'occupe des enfants, on s'occupe du chien, on aide à faire à manger. Donc, humainement, c'est vraiment très chouette. Et il faut juste... se contenter de peu de sommeil. Mais sinon, c'est vraiment très intéressant. Et même avec, par exemple, Radek, qui est le chauffeur de trolleybus, qui ne parlait pas un mot d'anglais, pas un mot de russe. Il me parlait en tchèque, je me parlais en russe, mais on arrivait à se comprendre. Et même avec lui, où la communication était difficile, ça a été une journée géniale. On a beaucoup rigolé, alors qu'on était confinés dans un bus pendant 8 heures et qu'on ne parlait pas la même langue. Mais il y a toujours une façon de faire passer un message ou de communiquer. Donc, il suffit d'avoir du pif, on va dire. Puis quand on est curieux et positif, on communique cette énergie aux gens. Donc l'énergie va à l'énergie, je pense.
Quel va être le débouché de ce projet ? Alors à la fois dans le cadre justement de cette résidence, une exposition, un livre ?
Ça va commencer par une exposition dont le vernissage normalement est le 7 décembre, si je ne fais pas d'erreur. Mais ma priorité, c'est la réalisation d'un livre, parce qu'avec ces images, déjà ces images fonctionnent en série, puisque ça raconte une journée à chaque fois, et surtout il y a un petit texte avec chaque portrait. Pour moi, le texte est très important, je m'en suis servi pour tous mes précédents projets, je ne peux pas me contenter que d'images. Donc ce livre est en cours de réalisation, Il va être publié sous peu, puisqu'on espère le sortir le jour du vernissage de l'exposition.
Je voulais aussi un peu parler de votre travail précédent à Pelzeign, puisque vous avez déjà un sacré bagage photographique derrière vous. Vous avez passé beaucoup de temps en Russie, donc vous avez tiré des expositions, des livres, enfin un blog aussi intéressant sur cette vie russe, ou ce virus, comme vous avez titré votre livre. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher justement aussi? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce pays à l'époque?
À l'époque, j'y voyais un grand potentiel de pouvoir trouver tout ce que je ne trouvais pas en France, à savoir plus de surprises, plus d'imprévus, plus de... pas de risques, parce qu'on peut en trouver en France, mais de... un certain contexte pour pouvoir me concentrer sur moi-même. Parce qu'en France, comme je comprenais la langue, j'avais l'impression de toujours être distrait. Enfin, quand les gens parlaient dans la rue, je comprenais tout, et ça me distrayait de mes propres pensées, de mes propres points de concentration. Et partir à l'étranger, pour ça, était bon. Et pourquoi la Russie? C'était parce que j'avais fait mon Erasmus à Riga, en Lettonie, où il y a une grosse minorité russe aussi, qui engendre certains problèmes. Mais malgré tout, j'avais été assez fasciné par ce début de culture russe. Et j'ai eu envie d'y aller. J'ai eu l'opportunité d'y aller pour des études. Et j'ai voulu y rester pour faire ce livre, parce que j'ai rencontré beaucoup de surprises, justement, et de caricatures entremêlées les uns dans les autres. Et c'était vraiment fascinant et inspirant. Et après, la langue m'a plu. Le côté complètement absurde de certains aspects de la vie m'a beaucoup séduit. Même si je suis persuadé que je serais incapable d'y vivre toute une vie. Hein. Je pense qu'il faut rentrer, faire des sas de décompression tous les ans, tous les deux ans. Rentrer en France et revenir dans un certain confort, on va dire. Mais la Russie, pour moi, était vraiment inspirante, parce que perturbante. Voilà, je crois que c'était le mot que je cherchais. J'aime bien quand les choses sont très perturbantes, et c'est un pays qui est très propice à perturber les étrangers, je pense.
Plus que la République tchèque et Pelzeign?
Ouais, même s'il y a pas mal de choses très étranges à Pelzeign. Après, c'est vrai que la Russie a un côté, surtout que j'étais en Sibérie, un côté, bon, même si le mot a plus trop de sens, sauvage. Même les Sibériens disent d'eux-mêmes qu'ils ont 20 ou 30 ans de retard sur Moscou, la capitale. Donc c'est vrai que ça a été, c'était un petit peu comme dans Les Visiteurs. J'avais l'impression d'être à une autre époque, et ça m'a beaucoup plu. Enfin, une autre époque dans le bon sens. Et Pelzeign, on va dire que c'est une transition entre chez nous et chez eux, quoi. C'est un juste milieu qui est intéressant aussi. Et le fait que là, je ne comprenne vraiment rien à la langue tchèque est inspirant aussi. J'arrive juste à attraper quelques mots au passage qui sont proches du russe, mais sinon, c'est une langue très particulière et je pense difficile à apprendre.
Vous avez eu l'impression de mieux comprendre finalement la Russie et ses habitants par rapport, par exemple, j'ai envie de dire, aux clichés qu'on peut avoir en Occident sur la Russie, sur le grand méchant Poutine notamment, et tous les clichés qu'on peut avoir sur la Russie, justement, la vodka, enfin tout ce que ça charrie en fait d'imaginaire assez étrange quand même vu de l'extérieur.
Ce qui est perturbant justement avec les Russes, c'est qu'ils sont très fiers de ces clichés. Ils sont fiers d'être inquiétants, fiers de faire peur, d'avoir une réputation d'alcoolique, ça les dérange pas. Sur le coup, enfin, quand ils boivent, ça ne les dérange pas. Après, c'est après, ils réfléchissent. Je pense qu'ils sont très fiers d'être dissuasifs, surtout ces derniers temps, d'imposer un certain respect. Enfin, on va dire utiliser le mot respect, mais c'est même pas ça. Ils sont dissuasifs et ils en sont fiers. Après, est-ce que je comprends mieux? Non. Enfin, je pense que plus on va en Russie, moins on la comprend, quoi. Même les Russes, ils comprennent pas la Russie, je pense. Enfin, c'est un peu présomptueux de ma part, mais c'est dur de comprendre cette culture. Et je ne sais pas si on en sera capable un jour. Et moi, ce que j'en ai ramené, c'est vraiment une vue subjective, hein, très, très subjective. Et je pense, et c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce que je ne comprendrai jamais, c'est cette culture. Il y a une espèce d'infini renouvellement qui me plaît beaucoup là-dedans. C'est un puits sans fond.
Qu'est-ce qui vous pousse un peu dans ces aventures photographiques? C'est l'envie de raconter des histoires?
Bonne question. Je crois que c'est l'envie de faire les livres que j'aimais lire quand j'étais petit, et que j'aimerais trouver maintenant dans les magasins, mais que je trouve pas. Et c'est ce que disait d'ailleurs mon premier éditeur, qui était Gérard Bérébi, des éditions Alia, qui disait que lui, il a commencé à faire des livres parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait dans les librairies. Je crois que ça rejoint ça. C'est vouloir trouver des objets un petit peu intermédiaires, qui sont pas du journalisme, pas de l'art, mais c'est entre deux que moi, personnellement, je trouve digne d'intérêt. Et produire ça soi-même, c'est déjà, c'est intéressant à faire, c'est très intéressant. Et puis ça fait des bons souvenirs et des bonnes histoires à raconter quand on nous demande des choses. Il y a toujours des choses à dire. Après, je suis très conscient que je pourrais pas faire ça toute ma vie parce que ça exige une certaine santé, forme physique, instabilité que je pourrais pas supporter, je pense, plusieurs années. Mais pour le moment, ça me plaît vraiment beaucoup et je pense avoir beaucoup de chance. Et je pense être quelqu'un de chanceux en ce moment. Donc, du coup, j'en profite. Ce serait une offense à ceux qui ont moins de chance que de pas en profiter.